Dans cette série de podcasts inédits et tirés de la première biographie du maestro, intitulée Ennio Morricone ou le poison d'une œuvre, parue aux éditions Marie-Bey et signée Philippe Grégoire, nous proposons une série de focus par périodes successives sur la vie et l'œuvre de Morricone. Dans ce podcast numéro 4, celui que vous écoutez présentement, et intitulé « Début de notoriété », nous nous intéressons en particulier à l'année 1964 et non à la période 1964-65 comme annoncé précédemment. Lorsque Sergio Leone sonna à la porte d'Ennio Morricone, à l'appartement qu'il occupait avec son épouse Maria à Monteverde Vecchio, au printemps 1964. Ce dernier, en lui ouvrant, reconnut instantanément en lui un ancien camarade de classe grâce à un petit pli particulier qu'il avait conservé au coin d'une lèvre. Ils se souvinrent tous deux que gamins, ils usèrent leur fond de culotte sur les bancs d'une école du quartier du Trastevere. Il retrouva même une photo de classe où ils figuraient tous les deux. C'est entré en matière pour les deux hommes qui s'étaient complètement perdus de vue pendant presque 3 décennies et étaient somme toute de bonne augure. Sauf que Léon, tout en se réjouissant de ces retrouvailles, avoua très vite à Morricone qu'il n'avait pas du tout aimé la musique qu'il avait composée pour un film intitulé « Duel au Texas ». La discussion prenait tout d'un coup une mauvaise tournure. C'est alors que Morricone, à la grande surprise de son interlocuteur, qui le provoquait un peu tout de même, confessa qu'il ne l'avait pas aimé non plus. On lui avait demandé d'adapter au mieux une création de Dimitri Tionkin, qui s'inspirait elle-même de chants funèbres mexicains. Que se serait-il passé si Morricone avait pris la mouche à la suite de cette remarque de Léon et que le ton de la conversation avait pris une mauvaise tournure? Leur collaboration n'aurait sans doute jamais existé, en tout cas pas pour ce film. Il n'en a rien été car le Morricone des années 60 et 70 restait conciliant, sans jamais se braquer. Par la suite, le compositeur deviendra, il est vrai, moins affable et moins enclin à la conciliation. Bien au contraire, cette critique, manifestement juste, les rapprocha. Ils discutèrent comme deux amis qui se retrouvent après une longue période d'éloignement et ils évoquèrent des souvenirs, puis relatèrent leurs expériences professionnelles respectives. Ainsi donc, le grand tournant de la carrière d'Ennio Morricone était en train d'intervenir en cette année 1964. Il résultait de retrouvailles tout à fait inattendues entre lui-même et Sergio Leone, son ancien camarade de l'école de Trastevere. Ensemble, ils allaient co-créer une première œuvre qui allait marquer non seulement l'histoire du cinéma, mais également l'histoire de la musique de film, pour une poignée de dollars. Ennio Morricone expliqua qu'il avait tenté, après sa formation musicale, de se consacrer à la musique de concert, mais sans grand succès, car ce genre de composition rapportait trop peu, et il avait maintenant la nette impression de végéter, ne parvenant pas à faire valoir son talent. Sergio Leone, quant à lui, narra sa déjà longue carrière dans le cinéma. Après avoir été l'assistant de plusieurs metteurs en scène américains, il avait réalisé lui-même 2 péplums. Enfin, il venait de tourner avec toutes les peines du monde un western et cherchait un musicien, d'où la raison de sa venue. Tous les deux étaient en quête de reconnaissance. Léon raconta l'histoire de son film à Morricone et lui demanda de créer un thème qui s'apparenta, si possible, à un chant militaire mexicain. Ce dernier lui fit entendre un arrangement, une petite berceuse, qu'il avait élaborée des années auparavant pour le chanteur américain Peter Tevis. Léon lui demanda s'il pouvait remanier l'ensemble, supprimer la voix du chanteur et la remplacer par un sifflement. Morricone eut l'idée de recourir à un instrumentarium inédit pour le western. Mis à part la guitare sèche, la trompette et des roulements de tambour venaient habiller l'ensemble, s'ajoutaient à l'orchestration des cloches, des sifflements, des chœurs d'hommes, des coups de fouet et de la guitare électrique Fender Stratocaster 1961. Un pari révolutionnaire pour l'époque, en vérité assez risqué. Un peu plus tard, je l'ai joué à la trompette, raconta Morricone, et Léon me dit « C'est cela que je veux. Tu fais le film, va à la plage, parce que ton travail est terminé. Déniche-moi seulement un bon siffleur. » Léon annonça tout de go à Ennio Morricone qu'il était engagé. Morricone fit appel à leur ami d'enfance commun, Alessandro Alessandroni, qui fut chargé des sifflements à côté de la guitare électrique et des sifflements sonores insolites précédemment utilisés. Le fait que les thèmes créés étaient simples et facilement assimilables par le spectateur permettait à ce dernier de les mémoriser facilement et bien sûr de les siffloter. Après plusieurs décennies de recul, nous restons admiratifs de ce premier opus qui, plus tard, sera appelé la trilogie du dollar. Nous oublions une chose essentielle, elle n'aurait pas dû exister. Tout, absolument tout, se liguait pour aboutir à un projet mort-né, l'histoire de la création de ce film, de sa genèse laborieuse à sa diffusion internationale, se révèle à peine croyable. Les informations qui vont suivre n'ont en rien été enjolivées. La réalité dépasse souvent la fiction, et dans le cas présent, elle relève du quasi-miracle. Jusqu'à la fin des années 50, le marché mondial du western made in USA restait encore à la mode, mais le public américain commençait à s'en lasser. En Italie, le cinéma parvenait à peine à subsister, et même si le genre cow-boy faisait encore l'objet de productions à budget réduit comme dans le reste du monde, il ne faisait plus vraiment recette. Cela ne découragea en rien Sergio Leone qui souhaitait s'inspirer de l'histoire de la moisson rouge de Dashiell Hammett, dont Akira Kurosawa avait tiré un film intitulé Yojimbo, le garde du corps, sorti en 1961 en déplaçant l'action des États-Unis au Japon. C'est après avoir vu ce film que Leone décida d'en faire un western. Il s'agissait pour lui de replacer l'histoire dans son contexte d'origine, qui saillait particulièrement l'histoire. Un homme arrive dans une ville livré à la rivalité entre deux gangs qu'il va anéantir en se plaçant entre les deux. Sergio Leone en écrivit le scénario en 5 jours. Celui-ci n'enthousiasma pas les premiers producteurs contactés. Il eut beaucoup de difficultés à convaincre une société de production d'investir dans son projet. Personne ne voulait entendre parler d'un nouveau western, ni ne croyait à son histoire, bien qu'il eût évalué un budget minima seulement 200 000 dollars de l'époque, ce qui le rangeait de facto dans la catégorie des petits budgets. Au final, à force de persévérance, il finit par persuader la Jolie Film, représentée par 2 producteurs, Giorgio Papi et Arrigo Colombo, qui consentirent, après bien des réticences, à risquer de l'argent dans l'entreprise. Ils avaient financé auparavant un autre western qui avait plutôt bien marché en salle et déjà cité, Duel au Texas. réalisé en partie en Espagne, le tournage de « Pour une poignée de dollars » faillit être abandonné avant le cap de fin tant les crédits étaient épuisés. Seul l'entêtement de Léon, resté sur place avec une équipe réduite et grâce à la générosité du propriétaire d'une hacienda qui les hébergea gratuitement, permit la réalisation des dernières scènes. Le film put ainsi parvenir à l'étape suivante du montage. Que se serait-il produit si tel n'avait pas été le cas? Si l'aventure du premier western de Sergio Leone avait tourné court? On peut prédire sans peine que cette catastrophe aurait sonné le glas des espérances du cinéaste qui serait resté pour toujours dans l'anonymat à ressasser son échec. Plus jamais un producteur ne lui aurait accordé le moindre crédit, ni moral, ni surtout financier. Dans ce contexte très défavorable au mois de septembre 1964, le programme des séances de cinéma de Florence annonça la sortie d'un nouveau western intitulé « Pour une poignée de dollars », réalisé, pour faire croire à un film américain, par un certain Bob Robertson, mis en musique par un nommé Don Savio et avec pour vedette principale un certain Clint Eastwood. Trois noms qui ne disaient absolument rien à personne. Une seule salle accepta de prendre le film en diffusion. Il s'agissait de la plus vétuste et la plus inconfortable de Florence. Sergio Leone assista le vendredi 12 septembre 1964 à la première projection dans l'indifférence générale. La chaleur étouffante de cette fin d'été n'incitait guère les spectateurs à gagner les salles obscures. Les recettes des premiers jours ne présageaient rien de bon quant à l'exploitation à venir du film. Pour le premier jour, l'équivalent d'à peine 300 dollars. Le lendemain, ce ne fut guère meilleur. Sergio Leone se résolut à rejoindre Rome. Le dimanche s'inscrivait dans la même lignée. Le film semblait voué à l'échec. Le lundi, Leone passa un coup de fil à l'exploitant. Surprise pour tout le monde et surtout pour le propriétaire de la salle. La recette de ce jour était monté à 1125 dollars. Ce n'était pas une erreur. Il se passait bien quelque chose. Le succès semblait s'annoncer d'une façon si surprenante que Sergio Leone se demandera toute sa vie comment le public avait pu parvenir jusqu'à une telle salle à l'état aussi piètre et lamentable, faute de n'avoir jamais été rénovée depuis sa création. Le fameux bouche à oreille suffit-il pour expliquer ce qui relevait de la plus pure improbabilité? Toujours est-il que les spectateurs se faisaient de plus en plus nombreux, à tel point que les jours suivants, le cinéma affichait complet et refusait même du monde. Il gardera le film à l'affiche de longs mois, tandis que ses concurrents tentèrent très vite de se procurer des copies. Les salles romaines, qui avaient écarté le film sans le moindre ménagement, se ravisèrent et, capital oblige, une première eut lieu au Super Cinéma, une salle de prestige réservée aux blockbusters américains. Le public arrivé en masse lui fit un véritable triomphe et la salle ne désemplit plus. Partout en Italie, les circuits de distribution cinématographique réclamaient de toute urgence une copie du film qu'ils réservaient à leur meilleure salle. Pour une poignée de dollars, devint ainsi le film à voir absolument. Les journalistes et le public découvrirent vite que derrière Bob Robertson et Dan Savio se cachaient en fait les nommés Sergio Leone et Ennio Morricone. Les articles, à la fois dans la presse spécialisée et dans les médias généralistes, se faisaient de plus en plus nombreux. Clint Eastwood, rentré chez lui après la fin du tournage, apprit par hasard dans un journal local que l'étranger magnifique, titre initial du film dans lequel il avait joué en Italie, rebaptisé pour une poignée de dollars, remportait un vif succès. Il n'en crut pas ses yeux. Les recettes de ce film à succès devinrent gigantesques et s'élevèrent à plus de 14 millions de dollars au terme de sa première année d'exploitation. La bande originale de Pour une poignée de dollars s'arracha, grâce à la commercialisation d'un disque, plus d'un million et demi d'exemplaires s'écoulèrent en un an pour la seule Italie. Sergio Leone savourait sa revanche. Les mêmes professionnels qui avaient ignoré son western en ne prenant même pas la peine de le visionner jusqu'au bout avant sa distribution en salle, se vantaient maintenant de l'avoir découvert. Avec ce film, il se positionnait désormais parmi les cinéastes plus que prometteurs. Le créateur de la bande-son sortait également de l'anonymat. Ennio Morricone avait 36 ans et il subodorait que dorénavant, les nouveaux contrats dans le monde du cinéma s'obtiendraient plus facilement. Il reçut d'ailleurs son premier nastro d'argent pour la meilleure musique de film. Ce troisième film de Leone, en tant que réalisateur et scénariste, se démarquait très sensiblement des westerns de cette époque. Ce faisant, il rénovait le genre en le propulsant au premier rang du 7e art. Et d'une certaine façon, il y mettait un point final en proposant un anti-western. Pour réaliser son film, loin de reprendre les fondements du western traditionnel qui voulait que le bon triomphe toujours du méchant avant d'épouser l'orpheline, il proposa une réécriture du western en tablant sur une vision hyper réaliste de l'Ouest américain et en la rattachant à tant soit peu à la commedia dell'arte italienne. C'est-à-dire un monde peu reluisant où régnaient l'individualisme et la violence et où la femme n'occupait pas le devant de la scène, du moins dans sa trilogie de départ. Quand on l'interrogeait sur son cinéma, Leone aimait rappeler que les personnages de John Ford sont tellement optimistes que lorsqu'ils ouvrent la fenêtre, ils regardent vers le futur, le grand futur, ouvert. Mes personnages, quand ils ouvrent la fenêtre, ont seulement peur de recevoir une balle entre les yeux. Sergio Leone, le bon vivant, aimait sortir Ennio Morricone de son appartement où il composait et l'emmenait dîner dans les restaurants autour de Trastevere, le quartier de leur enfance. Au terme d'une de ces agapes amicales, fin 1964, ils décidèrent de se rendre à un cinéma qui projetait leur première œuvre commune. À la sortie du film, les deux compères se dévisagèrent en s'esclaffant qu'elle n'avait ce film. Il s'agissait dès lors de faire très nettement mieux la prochaine fois, avec notamment et pour quelques dollars de plus, c'est le fameux, le bon, la brute et le truand qui constituèrent ce qu'on appela la trilogie du dollar. Ainsi s'achève ce podcast numéro 4 dédié à Ennio Morricone et tiré de la biographie publiée aux éditions Marie B sous le titre Ennio Morricone, le poison d'une œuvre, signé Philippe Grégoire. La citation que nous avons utilisée concernant Sergio Leone et ses personnages provient d'une masterclass inédite de 1986, Première News Cinéma. Le morceau que vous avez pu entendre est bien entendu intitulé « Pour une poignée de dollars » en italien. Je vous épargne le titre italien. Et a bien sûr été composé par Ennio Morricone. Il ne me reste plus qu'à vous signaler le site morricone-biographie.fr. Sur lequel vous retrouverez toute une série d'informations sur le livre paru aux éditions Marie B, sur le présent podcast, notamment les prochains épisodes, ainsi que des playlists qui reprennent les morceaux que nous citons. Je vous donne donc rendez-vous au prochain podcast, numéro 5 si je sais bien compter, qui portera sur le bon, la brute et le truand.